Bonjour à tous. Après avoir sillonné la Chine cette semaine, nous vous proposons comme chaque vendredi un débat d'actualité. Aujourd'hui, qui veut la peau des banques ?
Entendez-vous l'écho ? Tiffaine de Rocchini.
Ce n'est pas le plus vieux métier du monde, mais il faut tout de même remonter au XIIe siècle pour voir apparaître les premiers banquiers, des marchands lombards désignés par l'appellation Banco di Scritta, du nom de ces tréteaux qu'ils dressaient dans les foires de France. Au cours des siècles, les banques sont devenues indispensables au financement de l'économie, mais aujourd'hui les voilà bousculées par l'essor de la fintech, les TOBA et les géants du numérique. Partout, les grandes banques taillent dans leurs effectifs et tentent de sauver un modèle menacé. Vous écoutez France Culture et c'est l'heure du débat d'Entendez-vous les coups. Nous allons parler des menaces qui planent sur les banques traditionnelles en compagnie de nos trois invités. À 14h50, on retrouvera la chronique de Guillaume Duval, notre partenaire d'Alternatives économiques. Trois invités autour de la table. Bonjour Olivier Klein.
Bonjour.
Vous êtes directeur général de la BRED, une banque mutualiste qui appartient au groupe BPCE, Banque Populaire Caisse d'Épargne, et professeur d'économie à HEC. À vos côtés, Gisabelle Coupé-Soubéran. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste, maîtresse de conférences à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et autrice de cet ouvrage Blabla Banque, le discours de l'inaction, paru chez Michalon. Et enfin, Jean-Édouard Colliard. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes économiste, professeur de finances à HEC Paris. Alors avant d'en venir à notre sujet, un mot d'abord sur l'actualité. La propagation de l'épidémie de coronavirus a fait plonger les marchés financiers cette semaine. Faut-il s'inquiéter, selon vous, de ce dévissage des bourses ? Et que traduit-il, Gisabelle Coupé-Soubéran ?
Ça suscite une peur. La peur peut susciter la panique et la panique peut susciter un crack. Donc c'est bien entendu un catalyseur possible de crise financière dans un contexte où les prix des actifs financiers, les cours boursiers, mais également les prix de certains actifs obligataires ont énormément augmenté du fait des politiques monétaires qui ont été menées depuis 10 ans pour gérer la crise. Donc on est, si vous voulez, face potentiellement à des bulles qui se sont formées. Certains contestent ces bulles, mais si ces bulles finissent par éclater, eh bien ceux qui disaient qu'elles n'existaient pas pourront attester leur existence. Et c'est pas totalement irrassionnel, hein, comme
une peur qui n'est pas complètement irrationnelle. Olivier Klein, vous partagez cette analyse ?
Oui, globalement. Je pense que depuis 2017 minimum, les taux d'intérêt longs sont trop bas par rapport aux taux de croissance. Et ceci entraîne et déclenche des comportements de recherche de rendement à tout prix sur la base de choses de plus en plus illiquides, de plus en plus risquées, de plus en plus déraisonnables, pas par tout le monde, mais par une part significative quand même des investisseurs. Et les taux longs très bas sont une sorte de protection contre l'arrivée de cette crise, mais en même temps font que cette crise, quand elle arrivera, sera d'autant plus forte. Mmh. Et qu'est-ce qui peut déclencher une crise ? La remontée des taux d'intérêt, ce n'est pas le cas actuellement, mais ça peut être tout simplement le fait qu'il y a un surendettement ici ou là, pas partout, le fait qu'il y a des gens qui détiennent des choses qui sont bien trop risquées avec des primes de risque bien trop basses. Et le coronavirus peut être un catalyseur, comme cela a été dit très bien à mon avis, parce que tout simplement ça provoque une rupture dans les chaînes de production, dans les chaînes de valeur mondiales, et que ça affaiblit la Chine, qui est quand même un grand consommateur aussi, à la fin. Et de ce fait, il peut y avoir un choc d'offres. Autrement dit, moins de production, donc moins de cash flow. Et si les entreprises ont moins de cash flow, alors pour celles qui sont très endettées, ça peut devenir dangereux.
Le coronavirus catalyseur des fragilités financières mondiales, Jean-Édouard Colliard ?
Oui, peut-être. Je pense aussi que je suis un petit peu d'accord avec l'idée qu'il y a quelque chose d'un peu surprenant dans tout ça. C'est-à-dire que quand les taux sont très bas, c'est assez normal que les valeurs des actifs soient très élevées parce que vous allez mettre beaucoup de poids sur les profits futurs des entreprises. Mais justement, si on a cette vision-là, à ce moment-là, même si il y a des gros problèmes économiques, même dans les 1, 2, 3 années à venir à cause du coronavirus, ça va finalement avoir très peu d'impact sur la valeur des actifs financiers qui, en principe, dans une période de taux bas, devraient dépendre des profits à très 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 long terme. Donc il y a quelque chose d'un peu surprenant, c'est soit effectivement le marché est en train de surréagir à un choc temporaire, soit effectivement les actifs étaient à une valeur trop élevée, et là les gens sont en désaccord sur cette question, soit les gens anticipent qu'en fait il va y avoir des changements à très long terme, donc soit effectivement un impact sur l'économie réelle, ou peut-être qu'en fait il va y avoir des épidémies maintenant tout le temps, ou qu'il va y avoir des changements à très long terme sur la supply chain, etc. Donc, plusieurs hypothèses possibles.
On peut dire qu'en tout cas les bourses sont plus fragile aujourd'hui avec les taux bas. Isabelle Coupé-Soubéran, ça c'est une certitude?
On savait de toute façon que les taux bas étaient effectivement un facteur d'instabilité financière. Et donc là, le moindre catalyseur peut faire exploser ces bulles. Je crois que ce qu'il faut comprendre aussi avec la crainte associée au coronavirus, c'est que il peut y avoir des impacts majeurs sur l'économie réelle. On est dans le cadre de la mondialisation avec des processus de production qui sont très fragmentés, c'est-à-dire, si vous voulez, que tout ce qu'on produit ici dépend de ce qui est fabriqué ailleurs. Donc il y a une interdépendance très forte, une fragmentation très forte de ces processus de production, et par conséquent, si des bouts de la production sont paralysés à certains endroits, ça va complètement paralyser les productions. Donc l'impact sur l'économie réelle va être fort, et les marchés, qui sont pas toujours complètement irrationnels, peuvent anticiper cela et paniquer rationnellement.
Et est-ce que les bourses européennes ne sont pas plus touchées et ça traduirait une plus forte dépendance de l'économie européenne à la Chine, Olivier Klein?
Non, je crois pas. Aux États-Unis, la bourse est très touchée et l'économie américaine est extrêmement dépendante de l'économie chinoise. Pour revenir un tout petit peu sur ce qui a été dit, un point, les taux bas ne sont pas en soi facteurs, me semble-t-il, ou en tout cas, il faut le définir, ne sont pas en soi facteurs d'instabilité financière, mais des taux trop bas, trop longtemps, par rapport au taux de croissance, c'est un facteur d'instabilité financière pour recherche de rendement indu. Maintenant, sur l'économie, et pas trop de facilité d'endettement, maintenant, sur l'économie réelle, effectivement, si on a des ruptures dans les chaînes qui s'étaient mondialisées très largement, et on le voit bien sur les médicaments même, et que ceci produit un choc d'offres, c'est-à-dire une capacité moindre à répondre à la demande, ça ne sera pas un problème de demande, ça sera un problème de choc d'offres. Et là, il y aura moins de cash flow, et s'il y a moins de cash flow, les entreprises les plus endettées, ce n'est pas toutes, seront vite fait touchées, et ça peut du coup provoquer la raison d'une crise plus profonde. Enfin, ça dépend du temps du problème du coronavirus. Si ça ne dure pas trop longtemps encore, ça peut se reconstituer et peut-être que ça sera un trou d'air dans la bourse et ça remontera, et que les taux bas vont finir par faire remonter les prix boursiers de façon, à mon avis, un peu trop forte quand même. Ou bien, ça dure encore plus longtemps, tout se désorganise et le problème de l'économie réelle se traduit à ce moment-là légitimement aussi dans la baisse de la bourse.
Et c'est évidemment très difficile à anticiper à ce stade. On va revenir sur les taux bas et leur incidence, notamment sur les banques traditionnelles, mais on va en venir d'abord à notre sujet du jour, justement, ces banques traditionnelles dans la tourmente.
On savait que le géant bancaire HSBC esquissait depuis quelque temps déjà les contours d'une réorganisation de vaste ampleur. Eh bien, c'est chose faite. Le groupe basé à Londres a annoncé ce matin qu'il envisageait de supprimer pas moins de 35 000 emplois d'ici 3 ans.
En Allemagne, la Deutsche Bank tranche dans le vide pour se sauver. La banque annonce la suppression de 18 000 postes. Depuis plusieurs années, la Deutsche Bank connaissait de graves difficultés. Ce plan massif n'est donc pas une surprise.
Les banques pointent d'abord du doigt pour expliquer ces suppressions d'emplois la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne avec des taux d'intérêt très bas, voire négatifs.
Il est clair que la banque en général dans le monde et la banque européenne en particulier, aujourd'hui est en phase de changement de comportement des consommateurs d'une part et aussi de changement de la technologie qui permet d'interagir avec les consommateurs et de travailler en interne de manière très différente.
Depuis le début de l'année 2019, le secteur bancaire a annoncé la suppression de 100 000 postes à l'échelle mondiale. La crise est sérieuse, Olivier Klein?
Oui, parce qu'il y a deux facteurs qui se cumulent, mais qui n'ont pas forcément les mêmes effets et d'ailleurs pas forcément la même façon d'y répondre. Le premier, c'est la possible transformation ou rupture due aux nouvelles technologies qui favorisent éventuellement des nouveaux entrants. On en parlera certainement, que ce soit des fintech ou des GAFA. Et puis, tout simplement, l'arrivée de beaucoup de banques en ligne pure players, donc qui sont des banques seulement à distance. low cost, donc à bas coût. Moi, je pense que ça, mais je suis un peu pas totalement dans le courant principal des patrons de banque, hein, mais je pense que ça, c'est pas un énorme problème et qu'on peut le gérer, et qu'on peut le gérer bien. Et on y reviendra juste après si on veut.
Sans nécessairement repenser tout le modèle économique de la banque, vous voulez dire?
Sans être obligé de tout réinventer, même si il faut beaucoup assurer de mutation. Bon, si on y reste, on va y rester une seconde. C'est que simplement, je pense, un peu comme en macroéconomie, quand un pays fait face à une nouvelle révolution technologique et à la mondialisation, il peut soit chercher à baisser tous les coûts pour essayer de survivre, soit il peut, au contraire, apporter de plus en plus de niveaux d'enseignement, de formation, et d'aller chercher la valeur ajoutée, au contraire. Et moi, ce que je pense, c'est que les banques ont les moyens, si elles réfléchissent bien à leur modèle, de préserver l'invariant du modèle qui est fondamental et sur lequel j'espère pouvoir revenir plus tard, parce qu'il y a un invariant, une utilité intrinsèque, économique et sociale d'une banque. Mais ça exige d'aller chercher plus de valeur ajoutée et de faire plus de formation. Ça, on peut y répondre. Et puis, le deuxième grand problème, c'est les taux d'intérêt. Mais les taux d'intérêt, ça, c'est plus grave d'une certaine manière, parce que le fait que les taux d'intérêt aillent vers zéro entre les taux d'intérêt longs, hein, c'est-à-dire ceux sur plus long terme, et les taux d'intérêt court terme, ça écrase les taux de marge des banques. Et ça, ça enlève de leur rentabilité aux banques commerciales. Et là, évidemment, y répondre est plus difficile, et on en parlera aussi.
Alors, il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites, effectivement, Olivier Klein. Je voudrais faire réagir Jean-Édouard Colliard à cette idée d'une nécessité ou non de grandes restructurations dans le secteur bancaire. On entendait HSBC qui veut supprimer 35 000 postes dans les 3 années à venir, et ce qui est mis en valeur, c'est le fait que son bénéfice net a chuté de 53% en 2019.
Oui, alors donc avant de venir, pour me rendre un peu utile, j'ai regardé les chiffres de la Banque Centrale Européenne. Et donc en fait, entre 2008 et 2018, donc le nombre d'employés dans le secteur bancaire dans toute la zone euro est passé de 2,2 millions à 1,85 millions. Donc c'est une énorme baisse. En France, on est passé de 425 000 à 409 000. Donc c'est une baisse qui peut être grave pour les personnes concernées, mais c'est une petite baisse par rapport au reste de la zone euro. Et de la même façon, en nombre d'agences, en Europe, en France, il y a des agences qui ont fermé. Il y en a 3 000 qui ont fermé sur 39 500. En Europe, c'est beaucoup plus que ça. On est passé de 186 000 à 135 000. Donc il y a une grosse crise bancaire dans la zone euro, mais la France est plutôt moins touchée. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder un petit peu les ratios financiers, etc. Donc vraiment les performances des banques. Si vous regardez en moyenne, le rendement sur les actifs des banques est en fait relativement stable finalement, donc ça c'est pas si mal. Et en revanche, quelque chose qui est très intéressant si vous regardez les données comptables, c'est que le bénéfice d'exploitation des banques par rapport à leurs actifs, là vous voyez une espèce de trend depuis 10 ans, très régulier, de lent déclin comme ça, qui ne s'arrête pas et qui pour le coup est plus fort en France qu'ailleurs. Et donc ça, je pense que c'est peut-être la meilleure preuve qu'il y a un problème un peu plus fondamental du business model dans le secteur bancaire.
C'est intéressant ce que vous soulignez sur la spécificité du secteur bancaire français qui lui permet peut-être de mieux résister dans le paysage européen, Jezabel Coupé-Soubéran.
Est-ce que le secteur bancaire français est mieux armé, assez différent de l'ensemble du secteur bancaire européen? C'est un secteur
très concentré, alors, dominé par 6 grands établissements.
Oui, mais justement, alors le fait que le secteur bancaire français soit très concentré avec 5 grands groupes systémiques listés par le comité de stabilité financière, le Financial Stability Board, ça... Bon, on peut l'interpréter de deux manières, si vous voulez. On peut y voir des champions solides, on peut aussi y voir des colosses au pied d'argile et qui amènent de la fragilité financière. Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit, c'est-à-dire que on peut penser quand même à un problème beaucoup plus structurel de modèle d'activité des banques. Quand les banques expriment aujourd'hui leurs difficultés, que nous disent-elles? Elles incriminent les taux bas, elles incriminent les transformations technologiques avec l'essor des fintechs, et puis elles incriminent, mais ça le font toujours, le renforcement des réglementations depuis la crise financière. Le facteur plus profond, ce sont les transformations du modèle d'activité des banques qui se sont opérées au cours des dernières décennies. Les banques sont devenues de très gros groupes bancaires, assez tournés vers des activités de marché, qui ont également déformé leur activité de crédit, en lien davantage avec du crédit immobilier plutôt qu'avec du crédit à l'investissement des entreprises. Et ça, ça pose, si vous voulez, à la fois un problème de raison d'être des banques aujourd'hui, À quoi servent-elles? Et ça pose un problème manifestement structurel de rentabilité.
Mais sur cette question de la taille des banques, c'est important de le dire que le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Gallo, a plaidé justement pour une plus grande concentration du secteur financier européen, avec l'idée que ce serait le meilleur moyen de faire face à la concurrence des banques américaines. Olivier Klein, qu'est-ce que vous en pensez?
Je pense qu'il faut bien distinguer les métiers dans les banques. Il y a deux grands métiers, pour faire simple. Hein. Je simplifie un tout petit peu, mais pas trop. Il y a le métier de banque de financement et d'investissement. C'est les banques qui font des marchés financiers, qui financent des très grandes entreprises, mais qui font aussi beaucoup de conseils des grandes entreprises en faisant émettre des obligations, des actions, etc. Et qui utilisent leur table de marché financier pour faire des produits sophistiqués. Elles ont leur raison d'être. Mais c'est très différent de la banque commerciale dont on parle en général pour parler des effectifs. Parce que ces banques commerciales, c'est les banques du coin de la rue qui collectent l'épargne, qui font les crédits aux entreprises aussi bien qu'aux particuliers, aux commerçants, aux artisans, aux professions libérales, etc. Donc ces banques-là, elles ont pas changé de mode de fonctionnement en termes d'utilité économique et sociale. Heureusement qu'elles sont là, parce que c'est pas les marchés financiers qui vont les financer, la PME, c'est pas les marchés financiers qui vont les financer le particulier, ni le commerçant. Évidemment, elles ont besoin de cela. Et puis, les particuliers, eux, ont besoin de leur banque pour placer leur argent. Parce que la plupart des gens, ça, sont pas habiles pour placer eux-mêmes sur les marchés financiers. Et surtout, c'est beaucoup plus protecteur de placer dans une banque, parce que justement, on prend le risque sur la banque, mais c'est la banque qui prend, elle, le risque sur le reste.
Mais est-ce que cette distinction, elle est aussi évidente entre banque de détail et banque d'investissement,
oui,
Olivier Klein?
Ça l'est, mais justement, du coup, on parle plus des mêmes problèmes de modèle. Et juste un point, c'est que, par exemple, l'aspect digital et rupture technologique, il frappe au bon sens du terme, à mon avis, mais on pourra en reparler justement, parce que pour moi c'est une chance, la banque de détail, bien plus que la banque de financement et d'investissement. Maintenant, la réglementation, elle est tout à fait nécessaire à mon avis, parce qu'il n'y a pas d'autorégulation des marchés financiers pour trouver par eux-mêmes le juste équilibre. Donc c'est bien qu'il y ait des réglementations. Et donc je ne me plains en aucun cas, des réglementations, elles sont nécessaires. Mais les réglementations ont augmenté presque de fois deux le quantité de capitaux propres face au risque pris par les banques. Ce qui est bien pour les sécuriser, parce que c'est bien pour les épargnants d'avoir des banques sécurisées, c'est bien aussi pour ceux qui peuvent emprunter auprès des banques.
Mais c'est une contrainte, nous dites-vous.
Mais non, c'est pas une contrainte, c'est que ça fait baisser le niveau de rentabilité, mais c'est normal.
Mais justement, il a baissé, sur ces réglementations, elles reculent, Olivier Klein, elles reculent ces réglementations. Il y a une tendance aujourd'hui à aller vers une réglementation anti-crise moins forte. Gisèle Coupé-Souveyran, vous vouliez réagir.
Pas du tout en Europe, aux États-Unis peut-être.
Alors, il y a une proposition de résolution qui invitait le gouvernement à assouplir les accords de Bâle III et cette proposition a été adoptée début janvier à l'Assemblée nationale.
On pourra y revenir. Juste une remarque sur la distinction que vous faisiez, qui est tout à fait juste, hein, entre banque commerciale et BFI, banque de financement et d'investissement. Bien sûr qu'on peut distinguer ces deux métiers, sauf que ces deux métiers coexistent, hein, au sein de nos grands groupes bancaires. Ce sont des groupes bancaires universels, hein, et par conséquent, la séparation que vous mentionnez, elle n'existe pas dans les faits. Donc les activités de banque commerciale ont été largement affectées par le développement des activités de marché dans le cadre de la BFI. C'est le cas de la Deutsche Bank, c'est le cas de BNP Paribas. Et quand vous nous dites que les banques commerciales contribuent autant au financement des ménages qu'à celui des entreprises, non, il faut rappeler qu'aujourd'hui, la part du financement allant aux PME, qui sont les acteurs les plus dépendants en fait du financement bancaire, qui ont peu d'alternatives, c'est peau de chagrin vraiment au bilan. Mais si, c'est
pas
5% du bilan bancaire français agrégé, c'est petit.
Ça ne s'est pas du tout baissé et les crédits aux entreprises n'ont pas cessé de monter en France notamment.
On va faire réagir Jean-Édouard Collier.
Oui, je voulais réagir. J'ai un petit graphe ici là, que j'avais toujours de la BCE. Donc la part par exemple des prêts aux entreprises et aux ménages dans les bilans bancaires en France est passé de 50% à 65% sur les dernières années. Donc en fait, ce qu'on a plutôt vu, c'est un désengagement des banques sur les marchés financiers et une reconcentration sur leur activité de prêt.
La part des prêts aux entreprises et aux ménages, vous dites. Et dans ces prêts, qu'y a-t-il hein?
Je sais pas, je voulais juste rebondir sur les questions de régulation et de fusion. Et là, je vais être d'accord avec Jezabel. C'est que donc en fait, ce genre de discours. Donc en ce moment, donc le gouvernement de la Banque de France n'est pas le seul. On voit qu'il y a beaucoup de régulateurs en Europe qui sont d'accord avec cette idée de favoriser la concentration du secteur bancaire européen. Et ça, je trouve ça extrêmement inquiétant. C'est-à-dire qu'on a eu une crise financière il n'y a pas si longtemps. où le consensus de tous les régulateurs après était de dire « Ah, on a un problème de too big to fail », c'est-à-dire de banques trop grandes qui prennent trop de risques, où les investisseurs anticipent qu'elles vont être sauvées par l'État, etc. Il faut absolument éviter que ce genre de choses se répètent. 10 ans après, on dit « Ah, mon Dieu, nous allons être mangés par les banques américaines, il faut absolument reconcentrer le secteur, etc. » Secteur bancaire qui est déjà très concentré, c'est vrai en France, c'est pas du tout une exception, c'est vrai aussi en Espagne, ça s'est énormément concentré depuis la crise, c'est vrai en Italie, ça s'est beaucoup reconcentré aussi. Et donc ça, je trouve ça très très inquiétant comme changement, et c'est lié à des questions de régulation. Je pense qu'on va vers un modèle où les banques vont être encouragées par les régulateurs à être très concentrées, à condition qu'elles soient très régulées en même temps, et je pense que c'est un assez mauvais mix.
Mais est-ce que ce n'est pas le cas historiquement en France, avec cette idée, tout de même, aujourd'hui, est-ce qu'on ne peut pas conclure, Jean-Édouard Collière, que, dans une certaine mesure, ça protège les établissements français d'être plus concentrés ?
Oui, mais donc ça, c'est un peu un travers français commun, quoi. Vous encouragez beaucoup de concentration dans un certain nombre d'industries, vous avez des industries qui ne sont pas très concurrentielles, et donc, en gros, elles sont soutenues et c'est payé par les consommateurs, mais dans une économie de marché ouverte, je pense que c'est un modèle qui peut avoir ses limites assez vite.
Mais il y a une loi sur la mobilité bancaire qui est en vigueur depuis près de 3 ans. Est-ce que ça n'a pas augmenté la concurrence, Olivier Klein ?
Si, ça augmente la concurrence, mais c'est pas malsain. Et on a, comme ça a été dit, 6 ou 5 grands groupes français. Effectivement, il y en a 5 qui sont systémiques, un qui ne l'est pas.
Mais on va peut-être les citer, voilà. BNP, Crédit Agricole, Crédit Mutuel, BPCE, Société Générale et Banque Postale.
Et la Banque Postale qui n'est pas systémique. Bon. Mais ces 6 grands groupes, effectivement, n'ont pas vraiment besoin de se concentrer davantage. Enfin, je ne pense pas que pour la France, ça serait une très bonne idée. Maintenant, faut-il... Et d'abord, ils sont globalement en bonne santé. Hein, et en meilleure santé que certains pays
Que
voisins.
Les banques allemandes et italiennes, notamment.
Par exemple, voilà. L'espagnol s'est bien restructuré. Mais Italie, ça va mieux. Mais il y a encore des problèmes. Et l'allemand n'est pas en si bonne santé que cela. Hein. Donc, les banques françaises sont plutôt en bonne santé. Là, la question est de se dire... Faut-il, comme le suggère aujourd'hui la BCE, qu'il y ait de plus grands groupes européens ? Il y a 2 problèmes là-dedans. Le premier, c'est celui que vous venez de dire, que je partage totalement. C'est pas plus on est gros, meilleur on est. La meilleure preuve, c'est ce qui vient de se passer avec HSBC, groupe global mondial, qui est tellement complexe à la fin qu'il vend sa partie française, qu'il va supprimer 35 000 emplois, enfin, on voit bien, et qui a chuté beaucoup en résultat, on voit bien qu'il ne suffit pas d'être gros pour être bon. Hein. Et je prendrai à l'envers les groupes mutualistes et coopératifs que je connais bien, forcément, puisque j'en suis. Et c'est des sommes de banques régionales qui ont des choses en commun, mais des sommes de banques régionales, et ces sommes de banques régionales ont des efficacités et des prises de parts de marché meilleures que celles qui ne sont pas des sommes de banques régionales et qui sont nationales centralisées. Mmh. Donc, il n'y a rien d'évident à la concentration. Enfin, la concentration en Europe n'est pas une évidence du tout, même industriellement, parce que même si on croyait que plus on est gros, meilleur on est, ce que je ne crois pas, la réalité, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de synergie en Europe dans la banque commerciale. Je ne parle pas de la banque BFI, et là peut-être que le patron de la Banque de France, le gouverneur de la Banque de France a raison, mais sur la banque commerciale, c'est pas vrai, on n'a pas les mêmes réglementations, on n'a pas les mêmes fiscalités, on n'a pas les mêmes produits réglementairement parlant, et donc à chaque fois qu'il y a des tentatives de concentrer transfrontières, en réalité on crée des complexités, c'est pas forcément inintéressant, mais ça ne crée pas de synergie.
Je voudrais qu'on parle maintenant de la concurrence des néobanques et des banques en ligne.
Voilà, j'ai un chéquier ici, chez Boursorama, et un chéquier chez Hello Bank. Et puis les moyens de paiement, ils sont là à disposition, donc deux cartes Hello Bank. La carte donc Fortuneo Gold. Ce qu'il y a de bien, c'est que non seulement on vous paye, bon, c'est pas grand chose, mais derrière, à long terme, c'est que vous payez pas vos moyens de paiement, vous ne les payez plus. Ils sont complètement gratuits, et puis là, il y a marqué 0 euro de frais. Les frais qui me paraissent pour moi, que j'ai du mal à comprendre, c'est les frais de tenue de compte, quoi.
On assiste à un succès croissant des banques en ligne et des néobanques qui fonctionnent exclusivement sur mobile. Jésabelle Coupé-Soubéran, qu'est-ce qu'on peut dire de ce phénomène ? Dans quelle mesure est-ce que c'est une concurrence importante pour les banques de réseau, les banques commerciales traditionnelles ?
Alors, il faut relativiser un petit peu, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup, si vous voulez, de néobanques et de banques en ligne qui font partie des grands groupes bancaires traditionnels, qui appartiennent à ces grands groupes et qui sont l'expression de leur adaptation technologique.
Nickel, la filiale de BNP, qui est la néobanque la seule qui est rentable à l'heure actuelle.
Par exemple, alors ça c'est un exemple très intéressant là que vous mentionnez, parce que ça c'est typiquement un exemple d'une fintech qui s'était... Donc fintech, c'est l'association Finance Technologie. Donc c'était une petite start-up financière maîtrisant une technologie qui se présentait comme un service bancaire sans banque et qui vraiment faisait tout son marketing sur ce message-là et qui quelques années plus tard se fait racheter par BNP Paribas. Alors ça nous dit des choses intéressantes justement sur l'essor des fintech, parce que ça montre bien que lorsque c'est le fait de start-up, au fond, c'est pas un gros problème, si vous voulez, pour ces grands groupes bancaires qui sont tout à fait en capacité de les absorber. En revanche, si cette association technologie, services financiers, services de paiement devient le fait des GAFA, alors là, ce sera quand même une autre paire de manches, parce que des mastodontes ne pourront pas absorber d'autres mastodontes.
Et avant d'en venir aux GAFA, ce qu'on peut dire, Jean-Edouard Collère, c'est que le modèle économique de ces néobanques n'a pas encore fait ses preuves.
Si, je pense qu'il a
fait... Ils ont du mal à être rentables à l'heure actuelle.
Bah, très bien, je vais encore vous donner quelques chiffres. Donc, récemment, il y a eu un nouveau financement de Revolut, qui est une néobanque britannique. Donc, ça a été valorisé à 5,5 milliards. D'accord. Deutsche Bank, la capitalisation boursière, c'est 16 milliards. Donc, ça veut dire que Revolut, une néobanque toute jeune, etc., avec beaucoup de clients déjà, mais quand même moins que Deutsche, ils valent un tiers de Deutsche d'après le marché. Donc, c'est-à-dire que le marché...
Ça ne veut pas dire qu'elle est rentable.
Ça ne veut pas dire qu'elle est rentable aujourd'hui,
mais si, ça veut dire... C'est ce que j'allais dire, Olivier Klein.
Pas forcément aujourd'hui, mais ça veut dire que les investisseurs pensent qu'à terme...
Il y a une confiance qui lui est portée.
Ils pensent en gros que les cash flows futurs qui seront dégagés par Revolut vaudront à peu près un tiers de ceux de Deutsche Bank.
Et ils pensent aussi que ceux de Deutsche Bank vont continuer de s'effondrer.
C'est possible aussi, mais je pourrais prendre d'autres comparaisons. Donc les valorisations actuelles, qui sont peut-être inflatées pour tout un tas de raisons, ça c'est possible aussi, mais semble dire qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui pensent que les néobanques vont avoir un gros rôle à jouer à l'avenir, mais après, comme toutes les industries innovantes, bah, ça prend du temps, il y a tout un tas de choses. Mais après, je rejoins complètement Jezabel sur l'idée que aussi, il y a énormément de fintech qu'on voit. Laissez-moi vous donner un autre chiffre, par exemple. Les investissements du capital risque dans le secteur des fintech, d'après un rapport de Yosco, ça a été, jusqu'à novembre 2016, ça a été 100 milliards en tout, dans 8800 fintech différentes au niveau global, d'accord ? Au premier semestre 2018, 42 milliards d'investissements. Donc, des investissements absolument massifs et qui, à mon avis, correspondent au fait que le secteur bancaire a sous-investi beaucoup dans la technologie pendant très longtemps, pour tout un tas de raisons, certaines bonnes, certaines mauvaises. Donc, je pense que ce qui se passe, c'est que la banque se redevient une industrie technologique, que la façon dont c'est fait, c'est via des startups, dont certaines vont naturellement être intégrés dans des groupes bancaires plus gros et d'autres vont rester indépendants.
Et ça oblige les banques traditionnelles à s'adapter et à transformer leur rapport à la technologie.
Oui, mais ce genre de sujet ne doit pas cacher le fait que, en réalité, les banques, ce n'est pas que la banque au quotidien avec les paiements. Je reçois de l'argent, je paye, etc. Ça, c'est les banques, les néobanques, les banques low cost, etc. Ce sont des banques qui font que cela. Pourquoi elles sont low cost? Pourquoi elles sont pas chères? Parce qu'elles n'ont pas de conseiller bancaire. Mais du coup, elles ne répondent pas du tout à l'univers de besoin qui est celui aussi de nos banques. Je n'ai pas dit que c'était le seul, mais d'accompagnement des projets de vie, de financement des projets d'entreprise, etc. Et là-dessus, les gens ont besoin de conseils. Et ils ont besoin d'avoir des conseillers stables dans le temps. Et c'est ce qu'ils demandent. Dans toutes les enquêtes, tout le monde le demande. Si on fait bien ce métier-là, il n'y a pas de raison que les néobanques, ce n'est pas pour rien, à mon avis. Et là, je serais tout à fait en désaccord avec ce qui vient d'être dit.
Avec Jean-Edouard Collier.
Oui, ça n'est pas pour rien que les banques, les néobanques et les banques à distance, etc., ne sont pas rentables. C'est parce qu'elles ne comprennent qu'une partie du monde, du besoin des clients, qui est celle de l'immédiateté, du paiement, etc.
Elle constitue souvent une seconde banque. Il n'y a que 16%
de... une troisième banque.
Voilà, 16% des gens qui ont quitté leur banque traditionnelle pour une néobanque.
Et n'oubliez pas le pourcentage de gens qui sont sur ces banques-là. Il est quand même encore très petit. Hein. Donc, la réalité, c'est qu'il y a tout un autre monde qui est le monde du conseil, de la valeur ajoutée qu'on peut apporter. Et c'est là-dedans qu'on peut faire. Du coup, en tant que banque moi-même, j'investis énormément sur le digital parce que je ne veux pas, évidemment, être moins bon pour la praticité de la banque au quotidien que les nouvelles banques. banque, mais j'investis énormément sur l'humain pour apporter la valeur ajoutée et enrichir le conseil sans arrêt.
Une concurrence à relativiser parce qu'il y a beaucoup d'activités que ne fournissent pas.
Aucun effectif dans la banque, au contraire, on monte encore.
Isabelle Coupé-Soubéran.
Oui, si les fintechs se développent, ça a été dit par Jean-Edouard, c'est parce que sans doute il y a eu un sous-investissement dans la technologie. Et s'il y a eu ce sous-investissement dans la technologie par le secteur bancaire, c'est précisément parce que les banques se sont transformées et sont devenues ces très grands groupes bancaires un peu rentiers qui ensuite, si vous voulez, sont devenus assez peu innovants. En fait, quel a été le boulevard ouvert par les banques pour les fintechs? C'est le fait de justement ne plus trop se préoccuper des besoins de la clientèle et au contraire profiter d'une position dominante pour surfacturer des services et d'un autre côté, eh bien sous-investir dans la technologie en restant assis sur sa rente.
Mais ce qui va bousculer encore bien davantage les banques traditionnelles, ce sont les GAFA et les BATX. On en parle dans un instant.
Elle a les dents longues, ma banquière, en plus de ses excédentaires. Elle ne m'accorde vraiment aucun crédit, elle ne prête pas attention à mon débit. J'imagine qu'elle recèle des tas de trésors cachés, en attendant je suis fauché. Elle a les dents longues, ma banquière, j'aimerais la voir à découvert. Bien installée devant sa croissance du matin, occupée à me prodiguer ses abus de bien. Envisageant la reproduction des espèces, mais c'est pas moi qui l'intéresse. Elle a les dents longues, ma banquière, je l'ai vue avec des œillères. Je la croise souvent quand elle part aux commissions, je sais qu'elle revient toujours chargée de provisions. Il paraît que l'argent sale c'est pas cool, ouais. Eh bien elle est cool. Elle a les dents longues, ma banquière, lorsqu'elle me parle, elle est vulgaire. À chaque fin de mois, on liquide à sec, elle se sent victorieuse et m'interdit l'échec. Les sourires pas francs et dans les règles de l'art, elle me dit faut virer dardard, et moi je vire.
Banquière de Les Swings sur France Culture. Dans Entendez-vous l'écho, Olivier Klein, directeur général de la Bred, et les économistes Isabelle Coupé-Soubéran et Jean-Edouard Colliard sont toujours avec nous pour parler des métamorphoses du secteur bancaire. Alors, est-ce qu'il faut aujourd'hui repenser le rôle des banques? On va en parler, mais d'abord, il faut peut-être rappeler quel est ce rôle, en quoi est-ce qu'il consiste, Isabelle Coupé-Soubéran?
En théorie, si vous voulez, une banque est là pour contribuer au financement de l'économie, d'accord. Donc ça, c'est un aspect très important. Une banque, ça permet aussi de gérer des comptes de dépôt, de gérer l'épargne, de mutualiser les risques associés à cette épargne. Donc ce sont des fonctions tout à fait fondamentales qui permettent à l'économie de bien fonctionner.
Mais aujourd'hui, on peut se demander si les banques commerciales sont toujours nécessaires pour faire le lien entre les citoyens et les banques centrales, notamment Jean-Edouard Colliard. Et là, on va entrer dans cette proposition de la monnaie hélicoptère qui permettrait de se passer des banques. Alors, peut-être on va demander à Isabelle Coupé-Soubéran de nous expliquer cette proposition et on vous fera intervenir juste après.
Alors la monnaie hélicoptère, c'est une mesure à laquelle on peut effectivement, qu'on peut commencer à envisager justement dans des situations un peu d'urgence, hein, comme celle qu'on connaît aujourd'hui là avec ce risque de coronavirus. C'est une mesure aussi, si vous voulez, qui permettrait de renforcer l'efficacité de la politique monétaire, parce que la politique monétaire qui est menée depuis la crise, c'est une politique monétaire qui certes nous a sans doute peut-être évité la déflation, mais c'est une politique monétaire qui n'a pas véritablement remis nos économies sur un sentier de croissance suffisamment dynamique, inclusif et soutenable. Et donc, quel est le problème ? Le problème, c'est que la Banque centrale a émis énormément de monnaie centrale, a compté sur le canal de transmission bancaire qui a mal acheminé finalement cette monnaie centrale dans une certaine mesure, même si l'image est un peu
mal acheminée parce que la croissance ne repart pas, parce que l'inflation ne repart
pas.
Oui,
parce qu'il y a eu assez peu d'effets sur l'investissement et la croissance. Il y en a eu un petit peu, mais là déjà en zone euro par exemple, eh bien on est dans une phase de ralentissement. Et puis surtout, l'objectif principal des banques centrales, c'est de coller à une cible d'inflation de 2%. Eh bien, on en est toujours loin. Et la Banque centrale européenne ne parvient pas depuis qu'elle mène ce type de politique monétaire à recoller à cette cible. Donc, la monnaie hélicoptère, qu'est-ce que c'est ? C'est une distribution directe de monnaie centrale. La Banque centrale ne passe plus par le canal des banques, elle distribue directement aux ménages, aux citoyens de la zone euro, une somme, alors soit en une seule fois, soit chaque mois, et on peut en faire un instrument de pilotage de l'inflation. C'est-à-dire que, si vous voulez, ce type de mesure, nécessairement, ça génère de la dépense, c'est inflationniste. Mais on peut très bien dire, eh bien, quand la Banque centrale revient à sa cible d'inflation, on arrête la distribution. Mmh. Et ça en fait un instrument monétaire de pilotage de l'inflation, et ça permet d'éviter tous les effets distributifs assez malheureux qu'a eu la politique monétaire de gestion de crise, parce qu'elle a plutôt accru les inégalités.
Qu'est-ce que vous pensez de cet instrument, Jean-Édouard Colliard, qui enlève du coup la responsabilité du crédit aux banques commerciales ?
Je pense qu'il y a plusieurs choses. Ça enlève pas du tout, à mon avis, la responsabilité du crédit aux banques commerciales. Ce que ça fait, c'est que c'est un instrument qui dit que la monnaie, pour l'instant, la monnaie, ce qu'on appelle de la monnaie, c'est en fait de la dette des banques, c'est-à-dire c'est des dépôts bancaires. Et les banques se refinancent auprès de la banque centrale qui contrôle en fait indirectement la quantité de monnaie en circulation de cette façon. Donc là, c'est une façon en fait de ne plus avoir l'intermédiaire des banques, et en fait la monnaie deviendra simplement le compte que les gens ont à la banque centrale. Et ça permet effectivement d'implémenter ces politiques de monnaie hélicoptère, qui sont des politiques qui, en fait, c'est intéressant, c'était discuté déjà dans les années 60 en macroéconomie, mais comme
déjà Milton Friedman l'évoquait.
Voilà, c'est comme quelque chose d'un peu théorique et tout, on disait oh là là, ces académiques sont complètement fous, etc. Mais voilà, donc justement aujourd'hui ça devient techniquement possible, donc c'est une piste intéressante, et ça permettrait un peu de séparer effectivement le côté poursuite de la politique monétaire et le rôle des banques dans le crédit. Donc je trouve que c'est une innovation qui est potentiellement intéressante et qui est portée par beaucoup de gens. Donc
je trouve pas qu'il
faut le faire, mais c'est une proposition menaçante.
Moi là, on va croire que je vais parler en tant que banquier, je vais parler en tant que professeur d'économie spécialisé en économie monétaire, mais je suis pas le seul ici de loin. Donc tout le monde a évidemment le droit d'avoir des avis différents. Je pense que c'est la recette de la catastrophe. Garantie. Voilà, parce que si on distribue de l'argent gratuitement, ça ne veut plus rien dire, l'argent n'a pas de valeur, que les banques, de ce fait, s'il y avait une monnaie directement détenue auprès de la banque centrale, les banques n'auraient donc pas, par construction, en dépôt chez elles, ce qui leur permet aussi de prêter, précisément. Donc, il n'y aurait plus de circuit d'octroi des crédits, et je vois mal la banque centrale faire les crédits à la place des banques, à l'économie. Donc, ceci me paraît à la fois terrible d'un point de vue de la réalité concrète et parfaitement théorique, au point, j'aime beaucoup la théorie, mais là, conceptuellement vain et dangereux, et d'autre part, totalement pas en lien avec les besoins de l'économie. Simplement pour compléter quand même ce qui a été dit tout à l'heure, la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne a très bien réussi à faire remonter les crédits à partir de 2016. Les crédits à l'économie sont bien repartis et la croissance économique est bien repartie. Donc, mais pour cela, faut-il encore avoir une demande de crédit, naturellement. On n'oblige pas les gens à prendre du crédit, ni les entreprises. Par ailleurs, et contrairement à ce qui a été dit tout à l'heure, les banques prêtent autant aux entreprises qu'aux ménages, et bien sûr que si. Et par exemple, dans mon bilan, j'ai autant d'encours de crédit aux entreprises exactement qu'aux ménages, et ça doit être, j'ai pas été regardé, mais ça doit être à peu près la même chose dans toutes les banques, en tout cas que
je connais. Clairement un désaccord sur les chiffres.
Oui, totalement, mais c'est parce que si, je pense, Isabelle, que vous prenez le total du bilan bancaire, alors qu'il faut regarder parmi les crédits naturels qui sont faits à l'économie. Le rôle des banques, je partage tout à fait ce qui a été dit, le rôle des banques, c'est un rôle économique et social fondamental. personne ne peut aller dire « je vais aller jouer sur les marchés financiers pour placer mon argent » en étant tous des personnes omniscientes. Même les meilleurs ne savent pas toujours faire. Alors vous imaginez, les plus compétents soi-disant sur les marchés financiers ne savent pas toujours faire. Vous imaginez bien que placer son argent dans la banque, c'est une sécurité à condition que la banque soit sécure. C'est pour ça que je suis tout à fait pour les réglementations. Et la banque choisit les emprunteurs, PME, particuliers, etc., pour prêter l'argent. Et donc, elle fait se correspondre les besoins de financement des uns aux capacités de financement des autres.
Mais est-ce que ce projet de monnaie hélicoptère supprimerait totalement l'intermédiaire des banques, mais Jezabel Coupé-Soumera?
Non, absolument pas. Le drone monétaire, c'est une version high-tech de la monnaie hélicoptère que nous défendons dans un récent rapport publié à l'Institut Veblen avec trois co-auteurs. C'est une proposition de monnaie hélicoptère, de distribution directe de monnaie centrale numérique sur un compte numérique de monnaie centrale qui préserve complètement le circuit bancaire. Et j'aimerais revenir sur une remarque parce que je trouve ça assez emblématique. Distribuer de l'argent à tout le monde, c'est la catastrophe. Mais pourquoi cela? Parce qu'en fait, chacun mériterait exactement l'argent qu'il détient. Les banques méritent davantage l'argent que leur distribue la banque centrale que les ménages. Il y a quand même, si vous voulez, derrière
les
ça,
c'est une dette des banques.
Il me semble qu'il y a une sorte de d'arrière-pensée méritocratique qui à mon sens crée un obstacle purement intellectuel et psychologique à ce type d'instrument, alors que ce type d'instrument serait particulièrement efficace.
Alors on voit qu'il y a de la concurrence sur l'octroi du crédit, mais aussi sur la création de monnaie, puisque les banques commerciales créent la monnaie, mais ce rôle semble leur échapper justement à cause de nouvelles initiatives et de monnaies numériques qui émergent grâce à la technologie de la blockchain, Jean-Édouard Colliard. Là encore, c'est une concurrence qu'il faut redouter pour les banques commerciales.
Il faut quand même beaucoup relativiser, ça reste assez marginal, et je pense que le jour où vous pourrez acheter une baguette avec un Bitcoin est quand même encore assez loin.
Mais les ambitions de Facebook avec le Libra sont assez
considérables. Mais justement, ça a été bloqué parce que ça pose quand même des grosses questions justement de réglementation, de concurrence, etc. Après, comme en toute chose, ce qu'il faut voir, c'est que je pense que mon sentiment là-dessus, c'est que ces monnaies ne font pas vraiment concurrence aux banques, elles font concurrence aux banques centrales. Et ça, par contre, je trouve ça intéressant. C'est-à-dire qu'on voit que les banques centrales sont en train de beaucoup plus réfléchir finalement sur quel est leur rôle, comment elles créent de la monnaie, comment elles font de la politique monétaire. Chez nous, ça reste un peu anecdotique, mais là, ça joue un rôle très grand dans des pays en développement qui peuvent avoir beaucoup d'inflation, une banque centrale pas très sérieuse ou très politisée, etc. Et là, si vous avez Facebook qui vient avec une monnaie dont vous pouvez vraiment vous servir, c'est très intéressant. Et donc ça
permet de bancariser des populations qui sont très éloignées du secteur bancaire
aussi. Ça met beaucoup de discipline finalement sur les banques centrales. Je pense pas que dans les pays développés on ait d'énormes problèmes là-dessus, encore qu'il y ait des gens qui soient probablement en désaccord, mais pour d'autres pays ça peut être intéressant. Je pense que ce qui va plutôt se passer, c'est qu'à mon avis il y a beaucoup de gens très sérieux qui pensent qu'à un moment, les banques centrales vont offrir une forme de monnaie électronique aux citoyens.
Il y a beaucoup d'initiatives là-dessus. La Banque de France veut lancer l'an prochain des expérimentations pour développer une monnaie digitale de banque centrale. Il y a la Banque de Suède aussi qui l'expérimente en ce moment même. Qu'est-ce que vous pensez de ces expérimentations, Olivier Klein ?
Il y a deux types de monnaie banque centrale crypto ou disons électronique. Il y a celle que les banques centrales peuvent faire et mettre en circulation entre les banques. Et puis il y a celles qui peuvent être détenues directement par les individus, les citoyens, les entreprises, etc. Si les banques centrales commencent à être le banquier de paiement des agences économiques, ça risque de provoquer des faillites bancaires en cascade. C'est un risque fondamental. C'est pour ça que les banques centrales ne sont pas encore passées à la décision de faire cela. Elles sont toutes même plutôt réticentes et regardent cela avec beaucoup d'attention. En revanche, lancer une monnaie crypto pour faciliter les échanges entre les banques dans la monnaie des banques, qui est la monnaie de la banque centrale, ça, je pense, ça va se faire et ça va commencer à être regardé. Bon, pour les crypto-monnaies privées, ça n'a pas grand-chose à voir pour parler effectivement de Bitcoin et autres. Pour moi, ce sont des actifs hyper spéculatifs. Il se trouve qu'il y a des gens qui lancent une entreprise, c'est une entreprise de crypto-monnaie. Ils vont toucher par exemple 5% de tout ce qu'ils émettent eux-mêmes, ce qui est quand même très intéressant. Le seul problème, c'est que la monnaie, pour que ça soit accepté comme moyen de paiement généralisé par tout le monde, il faut qu'il y ait la confiance dans la monnaie. Et pour qu'il y ait la confiance dans la monnaie, il faut un régulateur. Et il faut des institutions financières qui soient régulées justement par ce régulateur. Si chacun émet sa monnaie dans son coin, pourquoi vous voudriez-vous accepter la monnaie Klein, quoi ? Moi, j'accepterais pas si j'étais vous la monnaie Klein et ou la monnaie de vous, ou la monnaie d'autres. Donc, il faut que ça soit par des institutions qui sont elles-mêmes régulées pour que ça soit digne de la confiance. Et cette confiance est précieuse, c'est ce qui fait tourner l'économie. Sans confiance, on arrive à des malaises profonds, à des crises profondes. Et il faut faire attention à ce qu'on fait et pas vouloir paraît trop vite. D'ailleurs, la valeur de la crypto-monnaie est totalement aléatoire et fluctuante.
Isabelle Coupé-Soubéran.
Oui, l'essor de ces crypto-monnaies ou crypto-actifs dit quelque chose. Hein. Ça, c'est quand même l'expression d'une certaine défiance vis-à-vis de la monnaie officielle, hein, vis-à-vis également des banques centrales, du secteur bancaire. Donc, ça exprime ça et il faut l'entendre. Je suis d'accord avec ce qui a été dit, c'est-à-dire que pour le moment, ces crypto-monnaies, en réalité, sont plutôt des crypto-actifs, des actifs spéculatifs très, très fluctuants. Mais la question qu'il faut se poser, c'est que se passerait-il si ces crypto-actifs devenaient véritablement des crypto-monnaies ? Ce qu'il se passerait, c'est que les banques centrales perdraient totalement le contrôle de la monnaie en circulation. Déjà qu'elles ne l'ont plus beaucoup, parce que au fond, c'est ça qui exprime les difficultés de la politique monétaire aujourd'hui. Eh bien, elle le perdrait totalement. Donc, il faut absolument que les banques centrales maîtrisent les technologies sous-jacentes à ces crypto-actifs, crypto-monnaies, pour être en capacité de maîtriser cela. Et le drone monétaire dont on parlait tout à l'heure, c'est de la monnaie numérique de banque centrale distribuée directement aux ménages.
En tout cas, cette technologie de la blockchain, elle est aujourd'hui reprise par toutes les banques, que ce soit les banques commerciales ou que ce soit les néobanques ou les banques centrales. C'est une technologie qui fait ses preuves, Jean-Edouard Colliard.
C'est intéressant que vous m'interrogiez là-dessus parce que je suis connu parmi mes collègues pour être très critique de la blockchain et de tout ça. Je pense qu'il y a beaucoup de confusion en fait sur cette technologie, c'est-à-dire que beaucoup de gens ne comprennent pas vraiment très bien ce que ça recouvre.
Ah bah c'est sacrément complexe, on peut le dire, oui.
Bah, pas tant que ça en fait, mais il faut juste se pencher dessus. Et beaucoup de banques en fait ont simplement peur de passer à côté quelque chose de profond. En fait, c'est vraiment une technologie d'anonymisation qui peut être très intéressante dans certaines applications, mais totalement inintéressante dans beaucoup d'autres. Voilà, j'ai même un collègue qui a nommé un théorème en mon honneur, qui est le théorème de Colliard, qui dit « En général, vous n'avez pas besoin de la blockchain ». Et donc, je pense que ça reste assez vrai dans beaucoup d'applications.
En tout cas, peut-être que la concurrence aujourd'hui la plus sérieuse pour les banques dites traditionnelles, commerciales, vient des big tech comme Alibaba ou Amazon. Alibaba qui propose des crédits pour que les gens consomment sur sa plateforme et finance même des entreprises qui vendent des produits chez eux. Qu'est-ce que vous en pensez, Olivier Klein ?
Là aussi, il faut bien distinguer les choses, me semble-t-il. Il y a 10-20 ans, on nous disait dans les banques, attention, c'est les grands distributeurs qui maintenant vont remplacer les banques. Vous devez vous transformer à toute vitesse parce que le grand distributeur va faire le crédit conso qui va permettre d'acheter le produit, etc. On en est toujours là, en réalité, d'une certaine manière. C'est-à-dire que les nouveaux distributeurs, c'est Amazon et Alibaba. Donc, ils vont proposer des crédits de consommation à la sortie de cela. Si c'est cela, c'est rien de neuf sous le soleil. Le problème, c'est que les big tech ont envie progressivement d'aller sur le paiement. Ce qui n'est pas la même chose. Elles ont envie d'aller sur le paiement parce qu'elles acquièrent ainsi des informations considérables qu'elles n'ont pas aujourd'hui, alors qu'elles ont déjà des informations sur notre vie privée à chacun, gigantesques. Si elles vont sur le paiement, elles vont voir toutes les informations liées aux revenus, à la consommation, enfin bien d'autres choses qu'elles ne trouvent aujourd'hui sur les réseaux sociaux. C'est faire une intrusion dans la vie privée encore bien plus grande. Ensuite, je pose la question, c'était la même chose pour les crypto-monnaies, quel est le degré de conformité, puisque c'est très très important la déontologie, d'où vient l'argent, est-ce que c'est pas l'argent de la drogue.
On sait que les GAFA adorent la régulation.
Et les GAFA détestent la régulation par construction, et leur univers même de besoins auquel ils répondent, l'univers dans lequel ils se déplacent, c'est celui de la gratuité apparente, puisqu'en réalité, derrière, il y a la commercialisation des données sur les gens, et l'univers de l'instantanéité, de l'immédiateté. Imaginez simplement qu'ils aient les mêmes régulations que nous, ce qui serait absolument obligatoire, ou alors c'est à n'y rien comprendre, pour vérifier que l'argent ne vient pas de la drogue, pour vérifier que l'argent ne vient pas du terrorisme, ou je ne sais quel terrible commerce, et l'instantanéité va ne plus se produire, les demandes incessantes, la régulation va être tatillonne, à juste titre.
Et les contrôles sont déjà compliqués pour les néobanques et les banques en ligne qui ont été accusées justement d'avoir des comptes fictifs qui permettaient le blanchiment d'argent.
Imaginez les GAFA dans cet univers, il me semble qu'elles ont des difficultés à se déplacer si elles sont dans des mondes dans lesquels on exige cela. Si on est dans des pays dans lesquels on n'exige rien, évidemment, là, elles peuvent toujours le faire dans le même univers dans lequel se déplacent.
Isabelle Coupé-Soubéran, c'est inquiétant le fait que les banques comme ça, les GAFA aillent sur les plates-bandes des banques commerciales.
En tout cas, il me semble que ça constitue un motif d'inquiétude bien plus grand que les fintechs sous la forme de start-up. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Si ce sont des start-up, c'est pas un grand danger pour les banques. En revanche, si ce sont les GAFA, oui, c'est un grand danger pour les banques traditionnelles, parce que les GAFA, ce sont en fait des producteurs d'informations. Ça a été dit, ils détiennent énormément d'informations sur nous. Et qu'est-ce qu'on écrit, nous, dans nos manuels d'économie bancaire? Ce qu'on écrit, c'est que les banques, ce sont des producteurs d'informations. Elles ont besoin de produire de l'information pour rendre possible les relations de financement. Ça veut dire que les GAFA sont extrêmement bien placés pour produire des services bancaires et financiers et qu'ils pourraient supplanter les banques dans la fourniture de ces services. Est-ce qu'on serait plus heureux avec des GAFA producteurs de services bancaires et financiers qu'avec nos mastodontes bancaires actuels? C'est vraiment pas sûr.
Le Conseil de stabilité financière du G20 a tiré la sonnette d'alarme. Il pointe les risques justement qui font que ces nouveaux acteurs sur la stabilité du système financier. Jean-Édouard Collière.
Oui, j'aurais voulu juste illustrer ce que disait Isabelle, avec laquelle je suis parfaitement d'accord. En fait, il y a un article récent qui est vraiment intéressant, qui montre que en fait, si vous connaissez juste ce qu'on appelle la digital footprint, donc l'empreinte digitale des gens sur Internet. Vous voyez, vous êtes une banque en ligne, vous savez absolument rien sur un client qui vous demande un crédit. Tout ce que vous savez, c'est s'il a un Mac ou un PC, vous savez quel est son navigateur, etc. Avec ça, vous pouvez aussi bien prédire s'il va vous rembourser le crédit qu'avec des modèles traditionnels de risque de crédit, etc. Donc ça montre vraiment la puissance de cette information et des chercheurs, juste avec cette info-là, ont réussi à prédire aussi bien. Et il y a eu l'exemple d'Alibaba, un de mes collègues à HEC, Mathias et Fink, travaillent avec leurs données, etc. Et donc ils montrent l'impact que ça a pour les firmes qui sont présentes sur cette plateforme et qui peuvent emprunter et après vendre sur cette plateforme et tout. Et l'impact est énorme. Donc effectivement, je pense que l'avantage informationnel potentiel des GAFA et du Big Tech en général est énorme, et je suis aussi d'accord avec Olivier que la fin des banques, le fait qu'elles allaient être remplacées par X ou Y, c'est quelque chose qu'on a entendu de nombreuses fois. La nouveauté, je pense, et je rejoins Isabelle, c'est que là, sur le plan de la théorie bancaire, on voit qu'il y a un avantage compétitif qui semble assez profond, alors qu'avec les distributeurs comme Tesco et Walmart dans les années 80, on ne comprenait pas trop quelle était l'histoire.
À une petite chose près vis-à-vis des
Olivier
clients
Klein.
C'est que les banques garantissent la confidentialité des données. Si jamais elles ne les garantissaient plus, là, tout est ouvert.
Et justement, plus que jamais, il faut réagir face à ces nouveaux acteurs.
Plus que jamais, je prétends depuis longtemps que c'est une des forces de la confiance que les gens peuvent avoir dans les banques. C'est que nous, on ne vend pas les données. On garde les données totalement confidentiellement. Ça fait partie du métier. Alors que les GAFA, précisément, collectent les données. Mais pourquoi sont-elles gratuites? Elles ne sont pas gratuites. C'est parce que, précisément, elles commercialisent les données pour faire en sorte que vous ayez de la pub plus ou moins bien ciblée sur vous.
Donc on a encore besoin des banques, Isabelle Coupé-Soubéran?
Bien sûr qu'on a besoin des banques, mais on a besoin qu'elles se transforment en profondeur et qu'elles se reconnectent à l'économie réelle, qu'elles retrouvent leur raison d'être.
Écoutez, il y en a beaucoup en France qui ont leur raison d'être, exactement comme celle qui vient d'être décrite. C'est d'être absolument des banques de l'économie réelle.
Tant mieux.
Il y a un pourcentage de banques en France
qu'elles soient
qui est considérable,
à l'image de la vôtre,
qui soit totalement branchée sur l'économie réelle. C'est même notre raison d'être fondamentale.
Fini sur un merveilleux consensus. Merci beaucoup à tous les trois, Olivier Klein, Isabelle Coupé Soubéran et Jean-Édouard Collière, de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. On mettra les références de vos ouvrages, de vos articles sur la page de notre site internet. Un grand merci. Il est 14h52 sur France Culture, c'est l'heure de retrouver la chronique de notre partenaire d'Alternatives Économiques. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Bonjour Guillaume Duval. Vous voulez revenir sur la question des retraites et ses rapports avec la crise écologique?
Oui, on débat beaucoup en ce moment en France, d'une part du projet de réforme des retraites qui est au Parlement, et d'autre part des moyens de lutter contre le changement climatique. Mais on oppose souvent ces deux problématiques. Parmi ceux qui considèrent à juste titre l'écologie comme la grande affaire du 21e siècle, il n'est pas rare en particulier d'entendre, de la part de jeunes notamment, que de toute façon les retraites on s'en fout, avec la crise écologique dans 30 ans il n'y en aura plus.
Et en quoi cette proposition ou cette position vous semble-t-elle erronée, Guillaume ?
Ne fait évidemment aucun doute à mes yeux que le changement climatique et l'effondrement de la biodiversité risquent d'avoir des conséquences très lourdes sur nos économies et donc sur nos sociétés. Surtout si nous continuons à ne pas faire le nécessaire pour en limiter l'ampleur. Mais justement, sur ce terrain, le mouvement des Gilets jaunes a montré qu'on ne peut pas mener à bien le bouleversement indispensable de nos modes de production et de consommation si on néglige les questions de solidarité et d'inégalité. En augmentant la taxe carbone, Nicolas Hulot voulait en effet accélérer la transition énergétique, mais le gouvernement auquel il appartenait n'avait prévu quasiment aucune mesure d'accompagnement, parce qu'il comptait avant tout sur les rentrées de cette taxe pour compenser la disparition de l'ISF, de l'impôt de solidarité sur la fortune, et la baisse massive de l'imposition des revenus du capital. Résultat, le pays a été mis sens dessus dessous pendant de longs mois, la hausse de la taxe carbone a été abandonnée, et la transition énergétique se trouve toujours au point mort en France.
Peut-être, mais avec la crise écologique, on n'aura tout simplement plus les moyens de payer cette solidarité à l'avenir.
Dans 30 ans, compte tenu de l'ampleur des dégâts que nous avons causés à la planète, il ne semble pas improbable, en effet, que la crise écologique nous ait contraints à la décroissance sur le plan économique. Mais si c'est le cas, il sera d'autant plus indispensable que la société se montre encore plus solidaire qu'aujourd'hui, afin de répartir équitablement des ressources devenues plus rares entre les puissants et les faibles, les riches et les pauvres, les malades et les bien portants, les vieux et les jeunes. Et contrairement à ce que beaucoup imaginent, ce n'est pas du tout impossible si la société le veut. Il faut se souvenir en effet que la sécurité sociale n'est pas le résultat de l'abondance née pendant les Trente Glorieuses. Elle a été fondée dans le contexte de pénurie généralisée qui était celui de l'immédiate après-guerre, après Seconde Guerre mondiale.
Et que se passera-t-il, Guillaume, si on ne suit pas ce chemin ?
Ben, ceux qui refusent de s'intéresser aujourd'hui au débat sur les retraites ou aux autres sujets sociaux au nom de la primauté de la crise écologique risquent fort, par leur inaction même, d'ouvrir la voie à un monde toujours plus dur où on laissera les vieux, c'est-à-dire bien souvent eux-mêmes dans 30 ou 40 ans, se débrouiller tout seuls dans un contexte dégradé. Mais si c'est le cas au final en 2050, ce ne sera pas seulement la faute du changement climatique.
Merci beaucoup Guillaume. Et la une d'Alternative Éco ce mois-ci ?
Donc nous titrons « Ils l'ont fait, 15 villes et villages qui ont changé les choses ». Donc c'est pour revenir effectivement au moment des municipales sur ce qui est possible à l'échelle locale.
Merci Guillaume et bon week-end. Titre Automatic Driver. Cette émission a été préparée par Marguerite Carton, Isolde Sicard, Aliette Auvin et Alain de Recourt, à la réalisation Anne de Pelchin, à la technique aujourd'hui Nicolas Delmas.
La semaine prochaine, nous partons à la recherche du juste prix. En attendant, vous pouvez écouter ou réécouter toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr et en podcast, et nous retrouver sur Twitter sur le compte d'Entendez-vous l'écho. Excellent week-end et à lundi.